Ce que je voulais faire avec vous ce soir, c'est partager quelques idées qu'on trouve dans l'Épître aux Colossiens et quelques idées que nous trouvons dans le Nouveau Testament plus globalement au sujet de notre identité et notre identité qui est construite en Christ. Nous vivons dans un monde, dans l'Occident européen, un monde qui est en perte de sens et qui est en perte d'identité. Si en dehors de l'Église, on pose aux gens la question « mais répondez, dites-moi, qui êtes-vous ? » nous allons trouver toutes sortes de réponses diverses et variées. Et je crois que l'une des raisons que nous trouvons et nous entendrons tellement de réponses différentes, c'est parce que nous vivons dans un monde qui nie l'existence d'un créateur et qui nie l'existence d'une création, que nous sommes des êtres créés par Dieu. Il y a quelques années, Max Donner a enseigné à Genève un séminaire sur l'athéisme et il a cité un chercheur en biologie qui est très très célèbre, Francis Crick, qui a écrit un livre sur la condition humaine basée sur ses recherches sur l'ADN, sur la biologie moléculaire et l'humanité. Et voici son constat au sujet de l'identité humaine. Vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, votre perception de l'identité personnelle et du libre arbitre ne sont en fait rien de plus que le fonctionnement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de leurs molécules associées. Vous n'êtes rien d'autre qu'un paquet de neurones. Et donc pour Francis Crick, qui nie l'existence de Dieu, qui nie l'existence d'un monde spirituel, qui est un matérialiste philosophique, il dit quel est le résultat de cette vision du monde qui nie Dieu et qui nie le spirituel ? Bon, nous sommes un paquet de cellules qui n'ont ni identité, ni libre arbitre. Nous ne sommes en fait rien. Et ça, c'est la philosophie de notre monde. Okay? C'est la philosophie sous-jacente de notre société et de notre culture. Mais que faire dans cette situation? Bon, la réponse, c'est si nous n'avons aucune identité qui nous est propre, car nous venons de nulle part et nous allons nulle part, nous sommes le fruit du hasard, la réponse, c'est de se créer sa propre identité, de trouver dans la vie, dans notre expérience, des choses sur lesquelles on peut construire notre identité, des choses sur lesquelles on peut se baser pour répondre à cette question fondamentale, qui suis-je? Et voici certains domaines que les gens utilisent pour construire leur identité. On peut construire son identité autour de son travail, de sa profession, de l'utilité que l'on a dans la société. Je me souviens, je parlais avec une dame qui était venue à un événement avec une amie et après coup, j'ai demandé à cette dame, « Bon, raconte-moi l'histoire de ton amie. » Et elle m'a raconté l'histoire en disant, « Bon, elle fait telle profession, elle travaillait à tel endroit, etc. » Et je ne sais pas si c'était cette femme qui voyait les gens à travers la perspective de la profession ou si c'était son ami qui se voyait en fonction de la profession, mais voilà une manière, raconte-moi ton histoire, bon, voici le travail que je fais, une identité construite sur le travail. Beaucoup de personnes construisent leur identité ou trouvent leur identité autour de la nationalité ou de leur ethnie. Je suis suisse, je suis français, je suis bernois, je suis genevois ou vaudois. Et c'est cette identité ethnique, identité nationale ou cantonale qui devient le marqueur de qui nous sommes. Beaucoup de personnes construisent leur identité par leur fréquentation, leurs amis. La place qu'ils ont dans un cercle proche d'amis, c'est cela qui leur permet de trouver une identité. Des gens cherchent l'identité dans leurs relations amoureuses. Bon, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai une copine, j'ai un petit copain. Et là, je sens que j'ai de la valeur, que je trouve mon identité dans ces relations. Des gens cherchent leur identité dans l'apparence. Si je peux avoir un corps qui est beau, qui est admiré par les autres, alors j'ai de la valeur. Qui suis-je? Je suis l'image que je projette de moi-même sur du point de vue physique. Des gens chercheront leur identité dans la réussite, les réussites de leur vie, et se définissent en fonction des prix qu'ils ont reçus, des grands projets qu'ils ont accomplis. Ou au contraire, certains qui se définissent en fonction des échecs de leur vie, qui suis-je? Bon, je suis le résultat de tous ces échecs de ma vie. Des gens chercheront encore leur identité dans l'approbation des autres. Nous vivons dans une culture qui nous pousse de plus en plus à trouver l'identité dans les désirs sexuels. On parle aujourd'hui d'identité de genre, qui ne parle pas de notre corps physique, mais des désirs que nous avons d'appartenir à un genre ou à un autre. On parle d'identité sexuelle, qui veut simplement dire donc que les attirances et les pulsions sexuelles que nous avons forment notre identité. Des gens cherchent leur identité dans leur statut social. Et oui, on peut aussi construire son identité sur les péchés que nous avons commis. Bon, qui es-tu? Bon, je suis tous ces péchés que j'ai faits au fil de ma vie. Et nous regardons toutes ces différentes options qui se présentent aux gens, ces différentes solutions que les gens utilisent pour répondre à cette question « Qui suis-je ? Qui suis-je ?» Mais nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas définis par le groupe auquel nous appartenons. Nous ne sommes pas définis par notre parti politique, par notre pays, par notre équipe sportive, par nos possessions, par notre célébrité ou notre réputation. Nous ne sommes pas définis par notre travail ou par nos loisirs. Tous ces éléments peuvent être des facteurs de notre identité et de notre histoire. Ces choses peuvent être des tentatives que nous avons utilisées pour trouver notre identité. Mais ces choses-là ne définissent pas qui nous sommes. C'est seulement Dieu qui définit qui nous sommes, quelle est notre identité. Et la Bible cherche à nous informer, à nous dire qui nous sommes, qui Dieu voit lorsqu'il nous regarde. Ce que Dieu dit que nous sommes et ce que Dieu dit que nous devrions être. Et l'un des messages centraux de la Bible, c'est de nous informer qui nous sommes vraiment, de nous informer de notre place dans le dessein de Dieu et de comment nous devrions vivre en fonction de l'identité que Dieu nous a donnée et l'identité que Dieu désire nous donner. Et donc, j'aimerais juste parler de quelques idées liées à cette identité que Dieu nous donne. Et une chose que je crois que c'est Greg Young de Marseille qui m'a fait penser à cela la première fois, mais dans la Bible, les êtres humains posent souvent la question « Qui suis-je ?» Et Dieu répond à « Qui suis-je ?» par « Je suis ». Par « Je suis ». Et nous voyons cela dans l'appel de Moïse dans l'Ancien Testament. Mais l'une des choses que nous devons comprendre, c'est pour savoir qui nous sommes, nous devons commencer avec qui Dieu est. Et lorsque Jésus est venu, vous savez, il a fait la même chose. Il a aussi enseigné et montré aux disciples qu'il fallait commencer avec qui lui il est, avant que les disciples puissent comprendre qui eux ils sont. Et je reviens à l'épisode que nous avions vu il y a 2 semaines ensemble, quand Jésus demande aux disciples qui il est. Matthieu 16, les versets 15 à 18. On était dans Luc il y a 2 semaines, mais c'est la même histoire. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Notez bien, une fois que Simon a reconnu qui est Jésus et qu'il a compris, même si ce n'est pas complètement, mais il a compris qui est Jésus, Jésus dit, c'est juste, et maintenant je vais te dire qui toi tu es, et la place que toi tu occupes dans mon dessein. Et ce rôle que Pierre et les autres apôtres auront pour bâtir, pour être les co-ouvriers avec Christ pour bâtir son Église. Mais notons bien que c'est Dieu qui définit qui nous sommes et Christ qui définit qui nous sommes. Ce n'est pas nous-mêmes, ce ne sont pas les circonstances et les événements de notre vie, ce n'est pas la société et les fréquentations que nous avons. C'est Dieu qui nous définit et qui désire que nous apprenions à nous définir aussi en fonction de lui. Et donc, ce passage, donc, qui sera le passage thème de notre retraite, Colossiens 2, les versets 6 à 7, dit ceci. « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en actions de grâce. Certaines traductions disent « Comme vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, vivez en lui, soyez enracinés et construisez-vous en lui. » Mais l'idée dans ces passages, c'est que de vivre, d'avoir reçu Christ, cela signifie une nouveauté de vie, une nouvelle identité qui est en train de se former au fil du temps, mais qui est centrée pleinement sur la personne et l'œuvre de Christ. Et pour ces chrétiens de Colosse, le message qu'ils devaient recevoir, c'était lorsque eux se voyaient eux-mêmes, lorsqu'ils se posaient la question « Qui suis-je ?», ils devaient regarder à Christ et vivre en Christ, marcher en Christ, se construire en Christ. Mais pour répondre à cette question « Qui suis-je ?», ils regardaient à qui est Jésus. Et donc, trois éléments, trois manières que Jésus forme l'identité des chrétiens que nous voyons. La première chose, et on va faire en ordre chronologique en commençant avec la conversion. La première chose, la première manière que Jésus forme notre identité, c'est que l'histoire de Jésus devient notre histoire à chacun d'entre nous à la conversion. Nous avons tous une histoire. Vous savez, nous avons une naissance, une famille, les choses que nous avons vécues, des réussites et des échecs. Nous avons tous des péchés qui nous ont éloignés et qui nous ont séparés de Dieu. Et l'histoire de notre vie sans Christ, c'est l'histoire de quelque chose qui commence bien et beau et béni par Dieu, mais qui finit en échec et en naufrage complet. Ça, c'est l'histoire de chaque vie humaine sans Christ, vous savez. Mais l'histoire de Christ n'est pas cette même histoire. L'histoire de Christ est une vie vécue pleinement dans la volonté de Dieu. Une vie pleinement vécue dans le service et l'accomplissement du dessein de Dieu. Et une vie qui va non pas vers la mort et la destruction, mais vers la mort, la résurrection et la victoire finale sur toute chose. Et l'histoire de Jésus est radicalement différente de notre histoire, n'est-ce pas? Mais ce que nous apprenons dans les Écritures, c'est qu'à travers la conversion et le baptême, l'histoire de Jésus devient notre histoire. Ou peut-être une autre manière qu'on peut dire, c'est qu'à travers la conversion et à travers le baptême, Dieu nous invite à entrer dans l'histoire de Jésus et à laisser notre histoire derrière nous. Dans Colossiens 2, les versets 12 et à 14, nous lisons ceci. « Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. » Par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant sur la croix. Notez bien ce qu'il dit ici. Enseveli avec Christ par le baptême, vous êtes ressuscité en lui et avec lui. Jésus était mort et enseveli et ressuscité. Et il dit, et c'est votre histoire aussi. Vous êtes mort et enseveli avec Christ et vous êtes ressuscité aussi. Bon, aucun des chrétiens de Colosse n'avait eu l'expérience littérale, physique, d'être mort physiquement, d'être enterré et ressuscité. Mais ils avaient tous vécu ce moment du baptême. Et dans leur baptême, ils sont entrés dans l'histoire de Jésus, mort, enseveli et ressuscité. Et comme on verra dans d'autres passages, élevé à la droite du Père dans la gloire aussi. Cette idée revient au chapitre 3, les versets 1 à 4, où Paul écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et voilà comment a commencé la vie de ces chrétiens, leur vie en Christ, n'est-ce pas? C'est que l'histoire de Christ est devenue leur histoire. Ils sont entrés en Christ et entrés dans la vie de Christ. Vu que Christ est mort, eux sont morts aussi. vu que Christ est ressuscité, eux sont ressuscités aussi. Et désormais, l'histoire qui définit leur identité, l'histoire qui définit qu'ils sont, ce n'est plus l'histoire des échecs et des péchés et de la mort de leur vie, mais l'histoire qui définit leur vie, c'est l'histoire de Jésus, qui, dans la fidélité à Dieu, est mort, ressuscité et monté à la droite du Père. Et ces passages où il parle de « vous êtes mort et vous êtes ressuscité » évoquent un moment spécifique, un événement précis quand l'histoire de Christ est devenue notre histoire. Et comme nous avons vu dans Colossiens 2, verset 12, ce moment dans le Nouveau Testament, c'est clairement le baptême. Le baptême qui est plus que simplement le moment où nous recevons le pardon des péchés, même si c'est cela. Il y a beaucoup plus qui se passe à travers le baptême. Et l'une des choses qui se passe, c'est que nous revêtons une nouvelle identité. Nous entrons dans une histoire qui n'était pas la nôtre, mais qui devient la nôtre. On voit cela aussi dans Romains 6, les versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et dans Galates 3, le verset 27, où il dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » C'est-à-dire, maintenant, c'est Christ qui porte une nouvelle identité qui les couvre. Et donc, quand on parle de notre identité en Christ, ça commence avec la conversion. Notre identité en Christ, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. C'est un don, c'est un cadeau de sa part, mais un cadeau qui est reçu à travers la foi, la repentance et le baptême. Et lorsque ces chrétiens étaient baptisés en Christ, ils sont entrés dans l'histoire de Jésus. Et leur relation avec Dieu, leur propre identité n'est plus définie par leur passé, mais par le passé de Christ. Et c'est une bonne nouvelle, vous savez. Bon, Dieu n'oublie pas qui nous étions avant. Okay? Notre histoire continue à former nos relations avec qui nous sommes, mais ce n'est plus l'élément déterminant maintenant. Désormais, ce qui définit qui nous sommes, c'est Jésus lui-même. Et donc, nous avons notre identité formée par Christ et par son histoire au commencement. Mais cela continue aussi au jour le jour. Car si Christ est mort, il est ressuscité, il règne à la droite de Dieu, il a aussi inauguré une nouvelle sorte d'humanité à travers la résurrection. Voici certains des titres qui sont donnés à Jésus dans Colossiens. Colossiens 1, verset 15, nous lisons « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et ces titres ici évoquent Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, n'est-ce pas? La création d'Adam, qui est l'image de Dieu qui est créé, le premier-né de toute la création qui est Adam. Mais Paul n'est pas en train de dire ici que Jésus, c'est Adam, okay? Une réincarnation d'Adam ou la résurrection d'Adam. Mais il est en train de faire un parallèle entre Adam et Jésus. Non seulement de souligner que Jésus est supérieur à tous, mais qu'il est l'accomplissement parfait de tout ce que Adam devait être. Il est l'image parfaite de Dieu, alors que Adam, créé à l'image de Dieu, était imparfait à cause de son péché. Il est le premier-né de toute la création, non pas parce qu'il était créé par Dieu, mais parce que par la résurrection, Jésus est le premier-né de la nouvelle création. Et c'est ce que nous voyons au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né, ce même titre, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et le but de Dieu, vous savez, ce n'est pas de jeter l'humanité et la création à la poubelle à la fin des temps. Mais son désir, c'est que la vie l'emporte sur la mort, que la création l'emporte sur le chaos et le néant. Et Dieu va recréer le monde, racheter le monde avec l'humanité. Mais qui est le premier-né de cette nouvelle création? Qui est le nouvel Adam? Le Nouveau Testament nous dit, c'est Jésus. Et Jésus, par sa résurrection, inaugure la nouvelle humanité qui commence. Il est le nouvel Adam, il est le nouveau modèle de ce que c'est que d'être un être humain. Et en regardant Jésus, nous apprenons ce que Dieu désire dans l'humanité et dans la nouvelle humanité. Jésus est l'homme par excellence. Il est la manifestation de Dieu, mais il est aussi la manifestation de l'humanité à l'image de Dieu, de ce que Dieu désire dans chaque homme et chaque femme. Il est le nouvel homme. Et donc, en regardant à Jésus, les chrétiens comprennent leur identité en tant que la nouvelle humanité recréée en Jésus. Et cette nouvelle humanité est caractérisée par une manière de vivre au jour le jour. Comme le Nouveau Testament dit parfois, de marcher. On ne sait pas que les chrétiens marchent différemment que les autres, mais c'est une manière de prendre des décisions, une manière de traiter les autres, une manière de vivre au jour le jour qui ressemble à Jésus. Et cette idée revient dans Colossiens 3, les versets 5 à 11. Nous lisons « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. » Et vous voyez combien cette manière de vivre est liée à l'identité. Il y a une vieille nature ou une vieille humanité qui existait avant. Et qu'est-ce qui caractérisait cette humanité? Bon, c'est tous ces péchés et d'autres qui sont mentionnés dans la liste. Mais c'est aussi toutes ces divisions qui existaient, toutes ces marqueurs d'identité qui séparaient les êtres humains. Les libres et les esclaves, les barbares et les grecs, les circoncis et les incirconcis. Tous ces éléments qui séparaient les êtres humains par lesquels on se définit contre l'autre. Mais ayant revêtu la nature nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle humanité, la nouvelle identité en Christ, ces choses ne les définissent pas. Et des esclaves et des libres sont frères et sœurs dans l'Église, partageant cette même humanité. Des Grecs et des Juifs, des barbares et des scythes, tous participent à une seule communauté, une seule table de communion, parce qu'ils ont reçu cette nouvelle identité. Mais cela s'exprime par une vie de sainteté, n'est-ce pas? Car ils rejettent les animosités, les méchancetés, la colère, l'impureté, l'idolâtrie. Toutes ces choses. Il y a une nouvelle manière de vivre qui ne ressemble plus à l'ancienne, mais qui ressemble à Christ. Et donc, nous vivons, nous sommes appelés à vivre en fonction de cette nouvelle humanité créée en Christ. Si nous sommes en lui, notre manière de comprendre notre personne, notre identité, notre humanité est changée radicalement en Jésus. Bon, la troisième chose, finalement, si il y a le regard vers le passé, n'est-ce pas? Son histoire, notre histoire est devenue son histoire. Nous sommes entrés dans son histoire. Le présent, sa vie, la nouvelle humanité créée en Jésus devient notre identité. Il y a aussi un regard vers l'avenir aussi. Dans Colossiens chapitre 1, les versets 15 à 17, nous avons cette déclaration au sujet de la gloire de Jésus. Et nous lisons « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas extraordinaire cette image de Christ? Parfois, nous avons une compréhension de Christ qui peut être un peu limitée. Parce que nous pensons à Jésus serviteur, Jésus souffrant, Jésus sur la croix. Et tout cela fait partie du dessein de Dieu et de qui Jésus est. Il est le sauveur qui vient pour donner sa vie. Mais Jésus est aussi le Seigneur au-dessus de toutes choses. Il est le Seigneur au-dessus de toute la création physique et spirituelle, avec un règne qui est éternel et qui est dans la gloire au-dessus de tout. Et Jésus n'est pas seulement Jésus crucifié et mort pour nos péchés, mais il est Jésus ressuscité et glorifié dans toute sa splendeur. Et ça, c'est l'identité de Jésus. Mais de nouveau, nous regardons à Jésus pour trouver notre identité. Et qu'est-ce que nous découvrons ? C'est que Dieu désire partager cette gloire de Christ avec chacun d'entre nous. Dans Colossiens chapitre 1, les versets 26 et 27, Paul parle de la prédication, du message qu'il a proclamé aux païens. Il parle de ce message qui est le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire, donc voici le mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelle gloire ? Bon, celle que nous avons déjà vue, n'est-ce pas ? C'est la gloire de Jésus qui règne au-dessus de toutes choses. La gloire de celui à travers qui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. La gloire de celui qui est à la droite du Père, en qui toute la sagesse de Dieu est révélée, en qui sont toutes choses et en qui nous avons toutes choses. C'est cette gloire-là que nous espérons. Et c'est cette gloire-là que Dieu partage avec nous en Jésus-Christ. Et donc, notre identité inclut aussi la gloire de Jésus. Qui sommes-nous ? Nous sommes les créatures glorifiées par Dieu en Jésus-Christ. Colossiens 3, les versets 1 à 4, je relis ce passage. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Avec lui dans la gloire. Et voilà qui nous sommes aux yeux de Dieu, si nous sommes en Christ, n'est-ce pas ? Nous sommes ceux qui ont leur vie cachée en Jésus glorieux, et qui auront cette gloire révélée pour chacun d'entre nous aussi. Et vous savez, de savoir cela et de croire cela vraiment peut avoir une puissance libératrice dans notre vie, où une si grande partie de la vie peut être motivée par le manque de confiance en soi, l'insécurité, par les rivalités réciproques, par le désir d'être reconnu par les autres, en disant « j'aurai seulement de la valeur, j'aurai seulement de l'importance si on me remarque, si on pense que j'en vaux la peine. » Mais ce que Dieu nous dit dans les Écritures, c'est que nous avons déjà cette valeur à ses yeux, car la gloire de Christ sera partagée avec nous. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que Christ est plein de miséricorde, plein de bonté et de grâce envers nous. Et il se prépare à partager cette grâce. Et donc, qui sommes-nous ? Bon, nous ne sommes pas des moins que rien. Nous ne sommes pas un paquet de neurones qui vient de nulle part et qui va nulle part. Mais nous sommes créés pour la gloire qui est celle de Christ et que nous allons partager un jour aussi. Et Dieu nous voit déjà avec cet honneur et cette gloire qu'il prépare pour nous. Et c'est un message merveilleux. Et donc, qui sommes-nous ? Bon, nous sommes des hommes et des femmes qui ont reçu l'histoire de Jésus, qui sont entrés dans son histoire. Et c'est l'histoire de Christ qui définit notre vie. Donc, qui sommes-nous ? Nous sommes participants à la nouvelle humanité inaugurée par Christ. Une nouvelle humanité qui détruit les séparations entre les êtres humains, mais une nouvelle humanité aussi qui nous apprend à vivre autrement dans la sainteté. Et qui sommes-nous ? Nous sommes des hommes et des femmes destinés pour la gloire en Christ et qui ont reçu cet honneur de la part de Christ déjà maintenant. Si nous savons qui nous sommes vraiment, nous pourrons donc vivre autrement. Et l'une des choses que nous voulons faire, c'est de grandir dans cette identité en Christ. Et donc concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Je crois qu'il y a en tout cas trois choses, et peut-être plus, mais l'une des choses, c'est de passer du temps avec Christ. Non seulement dans la prière, mais en lisant l'histoire de Jésus que nous avons dans les évangiles. en lisant des épîtres comme Colossiens ou les autres épîtres du Nouveau Testament, en posant cette question, mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Et si nous ne passons aucun temps dans notre semaine, à part les dimanches soirs et les mercredis soirs, par exemple, où nous sommes en contact avec l'histoire de Jésus, bon, nous n'allons pas grandir notre identité en lui. On ne va pas se construire en Jésus si on ne se nourrit pas de qui il est, de son histoire. Et donc, l'une des meilleures choses que nous pouvons faire, c'est de lire ou d'écouter ce message de Jésus et de qui il est, de comment il a vécu, pour construire notre identité en lui. Une deuxième chose, je crois, essentielle, c'est de passer du temps avec l'Église, qui est, nous dit les Écritures, le corps de Christ. Nous ne sommes pas en relation avec Christ, nous ne sommes pas en train d'être construits en Christ si nous n'avons pas de relation avec l'Église. Jésus a désiré que son esprit soit vivant au milieu d'une communauté, d'une assemblée qui est l'Église. Et dans nos relations les uns avec les autres, dans les moments que nous sommes ensemble, nous sommes aussi en train d'être construits en Christ et de former notre identité en lui. Et puis, finalement, une dernière chose, ce que nous voyons dans ces passages, c'est que la connaissance n'est jamais séparée de la pratique, n'est-ce pas? Cette identité est toujours liée à comment nous vivons. Et quand Dieu nous enseigne quelque chose, c'est aussi pour former notre vie. Et nous savons que nous sommes créés pour marcher en Christ, pour lui ressembler. Et donc, un autre encouragement, si nous voulons grandir dans notre identité en Christ, c'est de ne pas rester dans l'observation ou la réflexion seule, mais de faire quelque chose de pratique cette semaine, aujourd'hui, si nous le pouvons, pour mettre en pratique cette identité. De faire quelque chose pour les autres, dans l'Église ou en dehors de l'Église, comme Christ l'aurait fait. Lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un, en train de passer du temps avec quelqu'un, en train de voir l'occasion de servir, de dire « Maintenant, je vais agir comme Christ aurait agi dans cette situation. » En servant, en mettant les besoins des autres avant moi-même, en parlant avec vérité à ceux qui sont autour de moi. Mais de chercher des occasions pour agir et pour servir comme Christ l'a fait. Et en faisant cela aussi, nous grandirons dans notre identité en Christ. Vivons en fonction de cette nouvelle nature, cette nouvelle identité que nous avons reçue. Mort au péché et vivant en Christ, dans cette nouvelle humanité. Et nous faisons cela avec l'espérance de la gloire qui va venir.